Il est 11h sur Radio Campus Tour. Bienvenue si vous nous rejoignez, auditeurs, auditrices. J'ai le plaisir d'avoir avec moi aujourd'hui en studio une chroniqueuse passionnée d'environnement. Bonjour Rose.
Bonjour.
Alors Rose, tu es venue avec un invité dans notre studio. Est-ce que tu veux nous dire de qui il s'agit ?
Nous sommes venus avec Monsieur Debron, le président de la CEPANS. Donc merci d'être venu. Pouvez-vous vous présenter ?
Bien sûr. Donc bonjour Rose également. Alors, je suis Bruno Debron. Donc, depuis 6 ans, j'ai rejoint la CEPANT, qui est une association dont les initiales sont SEPNT, Société d'études protection d'aménagement de la nature en Touraine. Donc, elle existe depuis 1966. Et puis, je l'ai rejoint progressivement, un peu comme tout bénévole, en essayant de la découvrir il y a 6 ans. Puis, ça m'a inspiré progressivement parce que j'étais, comme toi, j'ai l'impression, très motivé par l'environnement pour aller plus loin et essayer de la lancer encore plus fortement en action sur la Touraine.
Vous savez comment est venue l'idée de l'association ?
Alors, l'idée initiale de l'association en 66 et puis les années qui ont suivi, il y avait plusieurs... C'est souvent quand il y a des gros problèmes que se créent des choses. Il y avait la volonté de mettre des barrages sur la Loire. Donc la Loire a la volonté de garder une Loire sauvage, une Loire naturelle. Donc il y a une forte opposition de personnes de l'Université de Tours qui se sont constituées en association pour être en opposition et puis renégocier pour éviter ce projet-là. Après, il y a eu d'autres situations équivalentes qui ont pérennisé la CEPANTE, parce qu'un seul projet, un seul problème, après il se résout, on ferme tout. Mais là, non, c'est reparti sur des problématiques qu'on a actuellement d'ailleurs à gérer, sur les déchets, à savoir un incinérateur qui ne va pas tarder à apparaître, et donc sur lequel, à nouveau, l'association s'est mise en opposition pour ne pas laisser partir de la fumée dans tous les sens en Touraine. Voilà des raisons qui ont amené à la genèse de la CEPANT, mais elle a beaucoup évolué au-delà de ces problèmes-là.
D'accord. L'association a été créée par qui ?
Elle a été créée par des membres de l'université, qui étaient surtout des personnes compétentes scientifiques, donc des maîtres de conférences, profs, même côté direction, puisque mon prédécesseur était l'ancien secrétaire général de l'Université de Tours, donc des gens qui étaient en compétence de gestion, mais surtout en compétence environnementale à l'Université de Tours, pour apporter leurs compétences dans un contexte qui est non pas souscrit ou intégré à l'université, mais avoir une certaine liberté pour pouvoir prendre des positions de militantisme. Et à partir de là, au début, c'était entre 5 et 10 bénévoles, hein, rien d'autre, en 66, 70. Et puis progressivement, elle a pris forme et s'est amplifiée fortement, d'ailleurs, dans la fin des années 90-2000, avec carrément, on est monté en puissance avec maintenant une équipe salariée. Donc dans le temps, sur presque 60 ans, on est passé de 5-6 personnes à maintenant 150 actifs adhérents, bénévoles, plus une quinzaine de salariés permanent ou stagiaire ou contrat de professionnalisation, plus, et je termine là-dessus, des associations locales qu'on fédère sur toute la Touraine, il y en a une vingtaine à peu près, qui sont à Chinon, à Mont-Louis-en-Boise, qu'on va coordonner, qu'on va aider à développer l'activité environnementale.
Donc on peut adhérer à l'association en tant que bénévole à partir de quel âge ?
Je dirais presque tout âge. Non, effectivement, les plus jeunes doivent être aux alentours de... j'en reviens toujours sur l'Université de Tours, on a des étudiants qui viennent vers nous. Et d'ailleurs, ils ont créé une association qui s'appelle l'APNE, Association de protection de nature et environnement à l'Université de Tours, qui permet chaque année de fonctionner avec nous. Donc, ils sont post-bac, mais on a aussi par moment des lycéens, des collégiens, donc 14, 15 ans au point de départ.
D'accord. Donc, vous êtes en communication avec d'autres associations ou avec d'autres entreprises ?
Oui, exactement. Alors, surtout d'autres associations qui sont soit fédérées par nous, donc celles qui sont un peu réparties sur la Touraine, soit cousines ou amies. Je vais donner une qui est très connue, comme la LPO, qui fait partie de notre réseau aussi, la Ligue de protection des oiseaux, Mougins-du-Bourg, bien connue au niveau national. Et puis on a ici aussi d'autres associations moins connues, mais très actives dans l'éducation à l'environnement, comme Arborescience, Couleurs Sauvages, Caudalis, qui sont pour pas mal certaines, avec beaucoup de salariés, enfin beaucoup, avec une proportion plus élevée de salariés que celle des bénévoles.
D'accord. Donc, vous prenez des stagiaires. Par exemple, là, les stages de seconde vont bientôt commencer. Est-ce que vous prenez des stagiaires ?
Alors, ils vont bientôt commencer, c'est-à-dire partir de l'année prochaine ?
Non, là, cette année.
Cette année. Parce que, dans le principe, oui, on prend des stagiaires. On en a d'ailleurs parmi les 15 que je disais personnes permanentes, on a 10 à 11 personnes vraiment CDI, salariés, etc., avec un directeur. Après, on a systématiquement 4 à 5 stagiaires, contrats de professionnalisation, services civiques, alternance aussi, qui reviennent chaque année. Le seul débat dans tout ça, c'est d'anticiper beaucoup, parce qu'on a beaucoup de demandes et qu'on ne peut pas en prendre plus de 4 ou 5 pour bien les tutorer, pour bien les accompagner. Hein, c'est les salariés, les 10 à côté, qui vont s'en occuper. Donc, si on en prend trop, on va pas gérer notre promesse correctement. Donc, faut anticiper, mais sinon, oui. On est très preneurs de jeunes pour apporter plein d'idées. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge, si on oublie les bénévoles qui sont un peu plus âgés, parce qu'ils sont retraités pour pas mal d'entre eux, les salariés et les stagiaires dont je viens de parler, ceux qui sont de passage, 6 mois, 1 an, quelques semaines, même parfois à l'association, sont entre 14 ans, je l'ai dit tout à l'heure, jusqu'à 30, 35 ans. C'est souvent cette moyenne-là qu'on retrouve, et c'est bien. Moi, ça me fait plaisir en termes de bain de jouvence.
D'accord. Quelles sont les missions principales de l'association ?
Alors, effectivement, pas mal de missions qui sont même un peu plus conséquentes que pas mal d'autres associations, qui n'est pas facile à gérer. Hein. On veut en faire plus, parce que l'environnement a bien besoin de traiter beaucoup de sujets. Au début, je l'ai un peu dit tout à l'heure, c'était parti sur l'histoire de la Loire. Donc, c'était l'eau, gérer l'eau. Et ça, c'est une grosse partie. On a un groupe thématique, comme sur d'autres thèmes que je vais évoquer, très actif sur l'eau, puisque les membres de l'association, qui sont surtout bénévoles, mais aussi certains salariés, vont travailler dans des organisations liées à l'eau. Par exemple, l'Agence de l'eau, Loire-Bretagne, qui sont des organisations, secteur public. On fait partie de leur conseil d'administration pour influer, pour aider à conseiller dans le bon sens de l'histoire. Donc l'eau est un thème majeur. Un autre qui est encore plus important et qui a pris une ampleur, qui m'a fait venir à la CEPAND, c'est la biodiversité, hein, qui est en péril, on le sait partout, les espèces disparaissent. Donc biodiversité, ça a démarré un peu plus dans les années 70-80, après l'histoire de la Loire sauvage. Et là, ce groupe-là, aujourd'hui, il doit réunir à peu près 140-150 adhérents, pas tous actifs en bénévolat, mais c'est celui qui est le plus développé, avec soit des actions pour aller connaître ce qu'il y a comme territoire en termes d'occupation de la faune et de la flore, et ce qui nous amène à constituer une base très importante sur tout ce qui est faune et flore, ce qui nous permet, à partir de la connaissance, de comprendre ce qui est en train de se passer, pour ensuite agir. Donc ça, c'est toute l'action de la biodiversité. Et ensuite, il y a un troisième domaine lié à ça, qui est l'aménagement du territoire. Attention, avec beaucoup de projets qui sont sur l'habitat, qui sont sur les énergies renouvelables, qui sont aussi sur des problématiques, par exemple, de déviation de routes qui vont passer en plein milieu des champs, d'éviter d'impacter la biodiversité. Donc on a des études cartographiques très poussées, qui sont utilisées par la préfecture, par toutes les instances publiques, qui ne l'ont même pas. On les aide, on leur met à disposition, pour éviter de faire des bêtises quand on est en train de mettre en place, par exemple, un projet de photovoltaïque auquel on va adhérer, mais on préférera le mettre sur les toits plutôt que dans les champs pour préserver la biodiversité. Donc eau, biodiversité, aménagement du territoire, et puis à partir de là, après, on a bien structuré une cellule, enfin un groupe nouveau qui s'appelle Sentinelle de la Nature, qui va gérer les défenses, enfin la défense de l'environnement, les atteintes à l'environnement. Donc c'est 5 bénévoles très actifs, qui, comme aujourd'hui, reçoivent des appels, enfin du moins échangent par téléphone ou par ordinateur, pour savoir ce qui se passe à tel endroit, on coupe des arbres, attention, il y a une rivière qui est polluée, etc., ou des déchets qui traînent dans la rue et autres. Donc on gère de plus en plus cette fonction d'atteinte à l'environnement. Et enfin, l'éducation à l'environnement, où on a une personne qu'on est en train d'ailleurs de recruter, qui va dans les écoles, là ça descend jusqu'aux primaires, collège, lycée, qui aussi auprès des entreprises dont vous parliez tout à l'heure, par exemple, je vais citer quelques noms, je ne sais pas si je peux, Harmonie Mutuelle, des entreprises très à vocation environnementale, qui ne font pas semblant, qui vont vouloir éduquer leurs collaborateurs qui sont un peu plus âgés pour se comporter mieux au niveau de la sobriété environnementale.
D'accord. Donc l'association est aussi ouverte aux visites ou vous faites de la sensibilisation sur l'extérieur ?
Ouverte aux visites ?
Oui.
Alors, on a les deux. D'ailleurs, sur le site internet, on le fait bien apparaître. On a chaque mois une lettre d'information qui va être toutes les découvertes, les visites possibles, les sorties de la nature possibles dans les actions de connaissances à acquérir, avec des salariés compétents qui vont guider, qui vont animer ces opérations-là. mais on a aussi des actions qui sont à l'intérieur de la CEPANT, au sein des groupes, pour réfléchir quelle position on prend sur telle problématique qu'on est en train de vivre. Donc on a un travail un peu de matière grise, mais aussi on a un travail de mettre les mains dans le cambouis, si je puis dire, soit pour aller ramasser des déchets, bon, c'est pas l'exemple le plus fréquent, soit pour carrément aller battre sur une opération qu'on n'accepte pas. On a d'ailleurs, tout à l'heure, je vais avoir un rendez-vous avec la mairie de Tours sur un sujet qu'on n'accepte pas, un nouvel incinérateur qu'ils vont mettre en place sur la ville de Tours et qui risque de faire des problèmes de santé, parce que c'est de la pollution encore en plus, et qui va aussi continuer à encourager à avoir des déchets de plus en plus, alors que nous, on est plutôt pour réduire les déchets. Donc, vous voyez, des sorties internes, externes, des réflexions internes et des actions d'opposition ou de concertation ou de négociation. Par moment, on est avec les élus, par moment, on est contre. Et quand je parle des élus, c'est préfecture, c'est mairie de Tours, enfin, c'est les collectivités locales.
D'accord. Donc, comment êtes-vous financé ?
Ah, très bonne question, parce qu'effectivement, au début, on n'était pas financé du tout. Dans les années 66, c'était que des bénévoles. Et comme on a eu un très gros projet qui m'a fait venir à la CEPANT, c'était ce qu'on appelle la ligne grande vitesse du train qui permettait aux Bordelais d'aller chez eux de Paris avec une demi-heure de moins, c'était bien dans l'idée, plutôt que de prendre la voiture, ou l'avion surtout. Mais globalement, par contre, ça a impacté toute la partie biodiversité de la Touraine, mais aussi des autres départements qui suivent. Là, on s'est mis dans un projet avec Vinci, le groupe Vinci, pour reconstituer avec ce qu'on appelle les mesures compensatoires, reconstituer la nature à d'autres endroits que la bande passante du train. Et de ce fait-là, les premiers financements sont arrivés. Et c'est comme ça que notre mécanique nous a amené progressivement à embaucher des salariés, alors qu'on n'en avait pas jusqu'à présent, sur des projets financés par des projets tels que celui que je viens de décrire, mais plus fréquemment, là, je vais en faire quelques-uns bientôt, remettre en place des zones humides dans les champs agricoles, travailler dans les villes, dans les communes, des inventaires de biodiversité communale pour savoir exactement. Et à chaque fois, il y a des financements associés à ça. On n'a pas de subvention, les yeux fermés. Personne ne nous donne l'argent en disant, en gros, je vous achète et taisez-vous. On n'a que des financements liés à des projets précis qu'on va réaliser, qu'on va faire un bilan et qu'on va communiquer aussi officiellement aux partenaires, mais aussi de façon plus large.
D'accord. Donc, votre association est sur la Touraine en général, mais est-ce qu'il y a pour objectif de passer en plan national ?
C'est déjà fait. Alors, oui, c'est vrai que ça se connaît pas, c'est pas bien connu tout ça. Mais c'est normal, on n'a pas trop de budget de communication, on n'est pas là pour faire de la pub, on est là pour faire de l'action. Donc, la CEPANT a été rattachée progressivement, comme d'autres associations, comme la LPO que j'évoquais tout à l'heure, à une fédération déjà régionale qui s'appelle France Nature Environnement, dont le siège est à Orléans, et qui est constituée d'un conseil d'administration issu des différents présidents des associations départementales des 6 départements de la région centre. Et moi, je suis l'un des vice-présidents de cette fédération régionale. Là, on est sur 16 associations régionales qui représentent 6 départements. Et quand on passe le cran national, on a la même chose, France Nature Environnement, France, qui est constituée de 6200 associations qu'on va retrouver fédérées par France Nature Environnement, PACA, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bretagne, Pays de Loire, etc. Donc globalement, c'est le bras armé le plus fort en France, même par rapport à LPO qu'on vous dit, ou Greenpeace ou autre, pour agir sur chacun des territoires avec des axes qui sont définis en local, mais aussi repris au niveau national pour qu'on aille dans le même sens au niveau de tous les territoires français. Donc c'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis venu à la CEPANT, c'est ne pas être dans une association de fonds de garage qui va se battre tous les jours, mais avec très peu d'impact. Le but, c'est avoir des impacts locaux, départementaux, régionaux, et nationaux, et même à l'échelle européenne, puisqu'on participe au COP avec FNE, qui va aller dans les COP, bon, avec plus ou moins de succès, c'est vrai, à l'échelle internationale cette fois-là.
D'accord. Donc, vous avez des locaux ? Des locaux.
Ah oui, des locaux, oui. Alors, c'est encore un grand débat du moment. Comme on agit pas mal, que ce soit avec des élus politiques d'aujourd'hui ou d'hier, on a un schéma de reconnaissance forte de la mairie de Tours et de celle de Chambray, là où on a nos locaux les plus importants, qui nous mettent à disposition des locaux à moindre coût. On a notre siège qui est au quartier des Fontaines, d'ailleurs, avoir une grosse animation qui est faite au niveau du comité de quartier pour avoir des actions sociales avec les jeunes, surtout des hérités qui sont dans ce quartier-là, pour faire découvrir la biodiversité sur le Petit Cher. Donc on a une action non seulement d'être implanté dans ce local au quartier des Fontaines, mais de se faire connaître et travailler avec des acteurs sociaux locaux. Et notre principal local maintenant, c'est à Chambray-les-Tours, où j'ai encore rencontré le maire de Chambray lundi, pour qu'il nous mette à disposition, il l'a déjà très bien fait, des locaux à côté de Trousseau, CHU Trousseau. Donc.
Est-ce que tu souhaites faire une pause musicale, Rose ?
Ouais, j'ai choisi la chanson « Hier encore » de Charles Aznavour.
Alors on écoute ça sur Radio Campus Tour, 99.5 FM. On se retrouve tout de suite après. Merci Rose pour ce choix.
Hier encore, j'avais 20 ans, je caressais le temps et jouais de la vie comme on joue de l'amour, et je vivais la nuit sans compter sur mes jours qui fuyaient dans le temps. J'ai fait tant de projets qui sont restés en l'air, j'ai fondé tant d'espoirs qui se sont envolés, que je reste perdu ne sachant d'où aller, les yeux cherchant le ciel mais le cœur mis en terre. Hier encore, j'avais 20 ans, je gaspillais le temps en croyant l'arrêter, et pour le retenir, même le devancer, je n'ai fait que courir et me suis essoufflé. Ignorant le passé, conjuguant au futur, je précédais de moi toute conversation et donnais mon avis que je voulais le bon pour critiquer le monde avec des involtures. Hier encore, j'avais 20 ans, mais j'ai perdu mon temps à faire des folies qui ne me laissent au fond rien de vraiment précis que quelques rides au front et la peur de l'ennui. Car mes amours sont mortes avant que d'exister, mes amis sont partis et ne reviendront pas. Par ma faute, j'ai fait le vide autour de moi et j'ai gâché ma vie et mes jeunes années, du meilleur et du pire en jetant le meilleur. J'ai figé mes sourires et j'ai glacé mes pleurs. Où sont-ils à présent? À présent, mes 20 ans.
C'était Charles Aznavour, hier encore, pause musicale choisie par Rose, notre chroniqueuse environnement. Alors Rose, je te redonne la parole pour poursuivre ton entretien avec Bruno Debron de la Sépante.
Quel type de professionnels travaillent dans votre association ?
Alors, ceux qui sont salariés, vous voulez dire, ou ceux qui sont bénévoles ?
Les deux.
On démarre par les salariés, les jeunes avant tout. Ce sont des jeunes qui sont formés sur des niveaux BTS-GPN, donc gestion de la nature en gros. On a aussi des jeunes qui sont en master, en licence, toujours dans une compétence environnementale. Il y en a même aujourd'hui qui sont devenus enseignants, qui font des cours d'enseignement à l'université après être passés par cette formation qu'ils ont connue pour rejoindre la Sépante. Donc ça, c'est des jeunes très très qualifiés, hein, vraiment. Ils viennent maintenant, par rapport aux bénévoles de l'époque, étaient à la genèse de la Sépante, qui était très bon. Les jeunes dépassent, enfin les jeunes formés avec cette formation que je viens de décrire sont vraiment d'un super calibre. Il y en a même certains qui sont recollés à une échelle nationale. Il y en a un qui a fait basculer un gros sujet. Je vais citer son nom parce qu'il est extraordinaire, Damien Avril. Il est passé à TF1, France 2, etc. pour dire attention, les zones de traitement sur les agriculteurs qui mettaient leurs pesticides qui arrivaient dans les petites rivières, on arrête le dégât parce que les rivières, après, c'est les fleuves, etc. etc. Et il a fait bouger les lignes, ce qui fait qu'il y a eu un arrêté préfectoral qui a tout interdit les agriculteurs de venir mettre du pesticide à moins de 3 mètres ou 5 mètres des petites rivières. Donc voilà, c'est des gens qui ont une capacité à super bien argumenter techniquement. Après, du côté bénévole, on avait ce type de profil. Malheureusement, avec l'âge, ils se sont un peu égarés. Enfin, pas égarés, ils ont un peu vieilli. Et on les perd un peu. Et d'ailleurs, actuellement, j'ai à nouveau une action de recrutement. Je rencontre avec Mathilde Gradepoix à l'Université de Tours pour essayer de refaire venir des gens comme moi. Alors, j'étais pas à l'université, mais j'étais dans une entreprise. Et quand je suis parti à la retraite, plutôt de rester sur ma banquette à me tourner les pouces, je me suis dit, je vais m'occuper de quelque chose qui me plaît. Donc je vais aller solliciter des futurs retraités de l'université Tours, comme on en avait en 1966, pour qu'ils aient envie de venir vers nous parce qu'on a un énorme problème aujourd'hui sur le bénévolat, énorme. France Bénévolat, qui nous alimente sur des candidats, a du mal également. Enfin, aujourd'hui, le bénévolat n'existe plus. Il y a du bénévolat zapping, on va ramasser 3 papiers dans un coin, puis on est content, pour toute la vie on a fait sa BA. Non, c'est du bénévolat durable, du bénévolat répétitif. Et là on a un vrai souci, ce qui fait qu'on n'a pas des compétences aussi fortes sur les bénévoles d'aujourd'hui, et sont plutôt, moi je viens du monde de Orange Télécom, rien à voir. D'autres qui viennent, s'il y en a, ils venaient du monde social, il y a un ancien directeur de l'association paralysée de France, donc le domaine social. J'en ai un autre qui était un consultant dans le domaine bancaire, bon, mais qui arrivait déjà avec chacun de nous trois, que je viens de citer, on arrivait avec une forte motivation, pas une grosse compétence, mais une forte motivation pour aller de l'avant sur réglons les problèmes ou essayons de réduire les impacts environnementaux. Donc c'est ça la principale compétence. Après, dans nos associations bénévoles qui sont un peu réparties sur la Touraine, la 20-25 que j'évoquais tout à l'heure, à Chinon, à Amboise, Montlouis et autres, là on a des bénévoles un peu plus compétents et motivés, mais qui sont par petits groupes de 3 ou 4. Donc ils n'ont pas une capacité à... Ils sont actifs, déjà ils ont du travail, ils ne sont pas retraités, pardon, et ils ont une action un peu plus ponctuelle.
D'accord. Quelle est votre profession actuelle sur l'association?
Je ne l'ai pas dit tout à l'heure peut-être. Alors moi, je n'étais pas venu pour ça, mais je me suis retrouvé président de l'association avec une volonté de mettre en place, qui n'était pas suffisamment développée avant, ce que j'appelle une gouvernance collective, par la concertation. Donc je ne prends aucune décision tout seul. On a un bureau de 4-5 personnes avec le directeur qu'on implique à chaque fois. Et les décisions sont prises à la vote des 5, si je puis dire. Ce n'est pas le président qui prédomine, surtout pas. Et après, il y a un conseil d'administration de 15 personnes, également qu'on sollicite très régulièrement sur toutes les décisions, soit environnementales, soit de gestion de l'organisation interne, qui ne sont jamais à la décision unilatérale d'une personne.
D'accord. Pouvez-vous nous donner quelques exemples d'actions que vous faites sur l'environnement?
Alors, quelques exemples d'actions. Là, il y en a effectivement, je viens d'en parler, je le redonnais un petit peu plus en détail. Il va y avoir une décision, enfin qui est pratiquement officielle, de mettre en place 2 incinérateurs à nouveau sur la Touraine. Alors, il y en a un qui était déjà en place à Saint-Benoît-la-Forêt, à côté de l'hôpital de Chinon, qui a l'avantage de faire d'un réseau de chaleur de l'hôpital Chinon, mais qui par contre polluait énormément. Celui-là, ils vont le remettre à niveau, le remplacer par un autre. Et puis il y en a un nouveau qui n'existait pas à Tours, qui va sûrement être bâti sur le nord de Tours, et qui va donc alimenter aussi en réseau de chaleur certains bâtiments publics, et qui va être prêt d'ici 4 ou 5 ans. Sur ce dossier-là, on est en mode militant. On est en mode non pas... de dire on faut tout arrêter, parce qu'on sait bien qu'il y a des poubelles quand même qu'on ne veut pas retrouver dans les rues, mais globalement, de réduire les tonnages, la volumétrie, la capacité d'incinération de ces, ce qu'on appelle les UVE, unités de valorisation énergétique. Sinon, c'est plus de pollution dans l'air. Donc ça, c'est une action militante. Et à partir de là, une deuxième action, on va dire, un peu plus constructive et positive, surtout avec ce qui vient de se passer avec les agriculteurs. On va aller bientôt, là, c'est le 28 mai, communiquer, ça devrait faire du bruit, j'espère. De temps en temps, on essaie de faire un peu de communication, avec 2 très belles opérations d'agri-foresterie, d'agri-écologie, l'une sur Savigny-en-Véron, donc plutôt vers Chinon, enfin dans le sud-ouest, et une dans le territoire de la Brenne, donc au-dessus de Vernoux en Brenne, pour montrer que des agriculteurs arrivent à faire des choses propres et saines. Et ce n'est pas uniquement de l'agriculture intensive, avec du pesticide à fond, avec des rivières ou des zones humides que j'enfouis pour faire à nouveau de la culture, alors qu'il y avait de la vie dans ces zones humides. Et on va démontrer concrètement que des actions ont abouti avec un accompagnement de la CEPANT ou d'autres associations pour que l'agriculteur ne se sente pas trop seul. Vous voyez, une action positive pour éduquer les agriculteurs et donner un exemple. D'ailleurs, ce projet, le deuxième que je viens de citer, vient d'être retenu au niveau national, par la FAC. La FAC est une grosse organisation qui n'est pas en rapport avec la CEPANT, mais une association nationale publique qui regarde de très près tous les nouveaux projets pour que les agriculteurs se comportent mieux demain et nous apportent dans nos assiettes des aliments un peu plus sains et un peu moins risqués pour les sujets de cancer, etc., qu'on connaît trop. Donc voilà les 2 actions principales. Après, on a des actions permanentes. On en a à peu près 5 à 10 par an, qui sont les fameux inventaires de biodiversité communale. Donc aujourd'hui, on a une 40aine de communes sur 200, donc on aura un peu de travail sur la Touraine, 230 exactement, qui, les maires de ces communes, nous demandent de faire une cartographie précise des zones les plus importantes qui peuvent être concernées par une biodiversité à protéger ou des réaménagements ou des trames vertes ou des trames bleues ou des trames noires. Alors verte, c'est pour la circulation des animaux, bleu, c'est pour la circulation des poissons, noir, c'est pour éviter les lumières dans les centres commerciaux le soir et donc les papillons sont dérangés, etc., etc. C'est des interventions qu'on a commune par commune et que nos salariés vont assurer. Voilà trois exemples de projets, il y en aurait plein d'autres qu'on peut mener et qu'on mène et qui vont de l'avant. Le débat, c'est qu'on sent bien que là, il y a une prise de conscience générale des collectivités locales pour nous sur-solliciter, j'ai bien dit sur-solliciter, ce qui fait qu'on a un énorme problème aujourd'hui à gérer. Comment répondre à l'attente tardive, il était temps, ça fait 15-20 ans qu'on leur dit, de se mettre en situation de réduire leur impact environnemental, alors que nous, on ne peut pas doubler notre effectif du jour au lendemain. Moi, je ne peux pas, et le consortium de décision de la CEPAN ne peut pas décider de doubler d'un seul coup l'effectif, au risque dans 3 ans de ne plus avoir les projets pour payer les salariés. Donc on est en train de leur dire, organisez-vous ou garantissez-nous des moyens financiers durables sur 5 à 10 ans, si vous voulez vraiment qu'on vous aide. Donc il y a un débat de non-réponse sur certains dossiers, parce qu'on n'arrive plus à suivre le mouvement, vu qu'il y a trop de demandes qui arrivent ici ou là, et il n'y a pas assez d'associations pour l'assurer. J'en ai cité quelques-unes tout à l'heure, mais LPO travaille beaucoup avec nous, donc nous aide en co-traitance dans certains projets. Le CPIE aussi, qui est une chaîne nationale assez connue, est assez actif à nos côtés. Quand on a des très gros projets, comme on a eu avec la communauté de communes de Val-d'Amboise, où c'était un énorme atlas de la biodiversité intercommunale, il y avait un paquet de communes embarquées, et là, on n'a pas pu faire tout seul. On va chercher des ressources ailleurs, dans d'autres associations, mais même avec ça, on n'arrive pas suffisamment à répondre à toutes les demandes qui nous arrivent, parce qu'on ne va pas les chercher, elles nous arrivent automatiquement. On n'est pas connu du grand public. C'est pas trop grave, même si ça serait bien aussi pour qu'on arrive à faire venir des bénévoles. On est surtout connu de tout ce qui est collectivité locale, tout le secteur public, voire les entreprises de plus en plus. J'ai parlé d'Harmonie Mutuelle, la SNCF avec nous, le Crédit Mutuel, Vinci, que j'évoquais tout à l'heure, etc., qui sont des bons financeurs, mais aussi des partenaires dans la durée. Ça ne suffit pas pour doubler notre effectif salarié, malheureusement. Et je voudrais tant pourtant. Mais voilà, on en est là aujourd'hui, donc beaucoup trop de projets, mais tant mieux, ça veut dire que ça bouge, mais on n'y répond pas tous.
Moi j'avais une question sur le plan du militantisme, concernant les actions passées pour rejoindre la question initiale de Rose en fait. Est-ce que vous avez des exemples à nous donner sur des actions passées, hein? Là, si j'ai bien compris, les incinérateurs c'est actuel.
Oui, alors passées, oui. Alors certaines qui ont abouti, d'autres pas. Alors je vais en prendre une qui a abouti très bien. À Amboise, j'étais en plein de parler d'Amboise, c'est à Possé-sur-Cis, il y a une usine là-bas qui s'appelle Saint-Tron, je donne des noms, qui travaille autour de la chimie et qui déversait de façon flagrante ses déchets chimiques dans les rivières qui sont attenantes, la Cis entre autres, et donc tout ça, ça partait un peu de travers. Donc on est allé sur place là-bas, on a mobilisé le préfet de l'époque et qui s'est mis à nos côtés pour empêcher l'entreprise de continuer à polluer de travers les rivières. Le patron de l'entreprise, qui était une boîte américaine d'origine, a dit « Si ça continue comme ça, moi je me barre et je vais retrouver, mais je ne vais pas être emmerdé aux États-Unis, ça se passe plus facilement qu'ici. » On a recosé avec lui, c'était assez long, sur 1 ou 2 ans. Il nous a entendus et progressivement on a mis en place des mesures pour qu'il réduise et surtout qu'il rende à zéro ses rejets de déchets. Aujourd'hui, la situation est remise d'aplomb. On vérifie. On va de temps en temps, on va faire un petit tour là-bas, en gros une ou deux fois par an, avec des bénévoles soit de la Cépente, soit de l'association d'Amboise, une des 20, Nature Environnement Val d'Amboise, qui va aller revoir de plus près ce qui se passe si l'entreprise ne repart pas de travers en termes de déchets chimiques, sur lesquels d'ailleurs c'était des salariés qui nous avaient prévenus parce qu'on ne le savait pas d'avance. Donc ça, c'est une action qui a abouti. On a par contre des actions qui n'aboutissent pas aussi, hein, n'est pas que dans le succès. Récemment, il y avait un gros projet de photovoltaïque, c'est bien dans l'idée, hein. Il faut remplacer avec du photovoltaïque, avec des éoliennes, il va y avoir bientôt en Touraine. On va avoir effectivement, sur Truis, ça se passait, à mettre en place un champ de photovoltaïque, enfin, on remplace le champ par des panneaux à tour de bras, et nous, on était plutôt contre, en disant, attention, il y a des espèces très protégées à cet endroit-là, des espèces en voie de disparition. On avait rencontré l'acteur industriel qui était sur le projet, un acteur parisien, pour lui dire, écoutez, on veut bien à tel endroit maintenir les panneaux, mais pas à tel endroit, on déplace un peu, on a retravaillé un peu la réorganisation de son projet. Et puis, on lui a dit, maintenant, il faudra suivre les plans de gestion pour que ça ne soit pas uniquement au début du film que tout va bien, mais pour les 5 à 10 ans, qu'on soit certain que la biodiversité soit protégée. Et là, il nous a dit, attendez, c'est pas mon problème, moi je fais un projet, puis après, je le revends et au suivant. Donc là, on était fâchés, on est parti en procès, hein. Donc ça veut dire qu'à chaque fois, il y a des procès. Hein. Au tribunal d'Orléans, qui est le tribunal de tout ce qui est juridique dans ce cadre-là, et on a perdu. Parce qu'il y a eu des analyses qui ont été faites sur les espèces insuffisantes, trop partielles, ce qui fait que les secteurs publics n'avaient pas les bons éléments sur les espèces qui étaient à risque, ils ne les avaient pas actualisés, et de ce fait-là, nous, on les a pourtant mis en évidence, mais ils considéraient que ce n'était pas encore des données officielles, et on a donc été débouté, ce qui fait que le projet est en train d'être mis en place. Alors on est en train de reprendre quand même contact avec l'industriel qui avait accepté de parler avec nous pour essayer de minimiser la casse. Et pour finir, parce que je veux toujours rester sur une note positive, on a des relations avec la partie électrique maintenant, donc c'est Enedis EDF, parce qu'il va falloir faire la jonction électrique de ces panneaux photovoltaïques pour les amener vers les besoins de consommation électrique de la population à côté. Et on va faire en sorte d'éviter que les passages des câbles électriques se fassent dans les zones en RB, donc de biodiversité, mais plutôt sous les chemins communaux, où il y avait déjà l'artificialisation, la minéralisation. Donc de ce côté-là, on devrait aboutir positivement, parce que Enedis nous a donné son accord. Mais sur les panneaux, ils y seront, alors qu'on préfère, nous, avoir, comme ici, comme ailleurs, plein de panneaux sur les toits. Il y a de quoi en mettre pour largement suffire à remplacer progressivement les fossiles dont on a un peu marre. Voilà deux exemples, un positif, un négatif.
D'accord. Le maire de Tours est bien tourné vers l'environnement. Est-ce que vous travaillez en collaboration avec lui ?
Oui, bien sûr. On a été. Sincèrement, une anecdote avec Emmanuel Denis que je connais pas plus que ça, mais la CEPAN, globalement, a été très actif avec lui sur ce qu'on appelait à un moment donné les marches du climat. C'est la CEPAN qui organisait cette opération et c'est Emmanuel Denis qui était, avant qu'il soit le futur maire, qui était un peu le porte-parole des personnes. C'est au moment des gilets jaunes, hein. Il y avait les mêmes défilés en parallèle. Je ne suis pas tellement défilé, moi, je n'aime pas trop ça, mais j'avais, pour la marche du climat, j'y avais été, hein, franchement. Et de ce fait-là, bon, on s'est connus, on a commencé à travailler ensemble. Il a été élu avec une équipe, j'en parlais tout à l'heure, qu'on apprécie, Betsa Beas à la biodiversité, Cathy Savouré à tout ce qui est urbanisme environnemental, avec Martin Cohen, que je vais voir à 11h15 tout à l'heure à la mairie de Tours, qui s'occupe des déchets, qui s'occupe de globalement tout ce qui est politique sociétale. On a une écoute plus forte de leur part, mais on n'est pas 100% dans leur sens. Et d'ailleurs, ils souhaitaient un peu, et ça c'est un message que je voulais passer, nous faire rallier un parti politique. Nous refusons d'être aucun des partis politiques. C'est l'affaire de chaque personne, c'est pas l'affaire de la CEPAN. La CEPAN reste neutre et indépendante de tout financement et de tout axe politique. Un exemple, avec le maire de Tours, on n'était pas complètement d'accord, c'est sur ce qu'il voulait réaménager au niveau de l'aéroport de Tours. Il y avait, et d'ailleurs il y a encore des projets plus ou moins d'artificialisation d'une partie, parce qu'il y a effectivement un retrait de la partie militaire, aérienne militaire, pas la partie publique. Et là, on sentait qu'il y avait de l'artificialisation qui risquait de mettre en place, ou en péril, pardon, la biodiversité de l'aéroport de Tours, parce qu'il y avait quand même un peu de verdure autour des pistes. Donc là, on n'était pas dans le même sens de l'histoire. Sur l'histoire des incinérateurs, j'y reviens encore, c'est le sujet du moment, avec organisé, on l'évoquait tout à l'heure dans les opérations CAP 2030, on pense qu'ils ont accepté un peu trop vite les tonnages, les capacités des incinérateurs. On était pour en avoir, mais les minimiser au maximum. Et j'ai donné des chiffres. Aujourd'hui, accepter 100 000 tonnes de capacité à incinérer sur les années à venir, c'est beaucoup trop pour nous et pour les jeunes qui sont concernés. Alors qu'on considérait que si on vise une estimation de réduction, de prévention des déchets, qui peut être faisable. D'ailleurs, on est en train de la mener, un plan de prévention qui va se faire ville par ville. Il va arriver, vous allez tous être touchés, pour réduire ces plastiques, pour faire en sorte de faire du compostage plus fort, pour aussi même éviter de faire des achats inutiles, hein, tout simplement, on remonte à la source. Donc globalement, on avance là-dessus, et si on avait engagé plus fortement cette action de prévention, on pourrait réduire le tonnage de moitié, donc les capacités d'incinération de moitié. Là, trop vite, il a été décidé avec la préfecture, on y va sur un tonnage qui n'est plus à 200 000 tonnes, c'est vrai, mais qui est encore à 100 000 tonnes et qui, pour nous, est trop élevé, avec les risques de pollution et les risques, bien sûr, de, je dirais, de, des déchets, donc impact GES, impact gaz à effet de serre, pardon. Donc voilà nos relations qui sont par moments partenaires avec le maire de Tours, Emmanuel Denis, et son équipe, son conseil municipal, et par moments qui sont en opposition, en tout cas en désaccord.
Moi, j'ai une question aussi pour ton invité, Rose. Là, parce que vous parlez de la mairie de Tours, il y a des beaux îlots de chaleur urbain aussi dans la ville de Tours. Et donc, j'aimerais savoir ce que la CEPANTE pourrait préconiser pour lutter contre les îlots de chaleur urbain.
Alors, effectivement, on a un avis sur les îlots de chaleur. On n'est pas directement impliqué sur ces projets-là, dans la mesure où on a quand même une volonté forte de laisser à des acteurs qui ont des moyens de compétences humaines à la mairie de Tours et de moyens financiers, même si c'est un peu plus délicat pour la mairie de Tours actuellement, le fait d'être autonome. On a effectivement plutôt une action sur les îlots de chaleur qui se fait à travers une autre opération que je n'ai pas citée tout à l'heure qui s'appelle Objectif Climat 2030, qu'on fait avec les communes, donc plutôt les communes qui sont jusqu'à 10 à 15 000 habitants, où on va recommander la mise en place de plantations d'arbres, je dirais de remettre un peu de zones humides, de mares, etc., même à l'intérieur des communes, hein, puisque tout ça, c'est de la captation de carbone, et c'est aussi des apports de fraîcheur, puisque c'est de la captation de chaleur à l'intérieur, pour l'arbre ou pour la mare. Donc c'est une action de ce type-là qu'on mène, mais on n'est pas impliqué directement sur la ville de Tours, donc je ne ferais pas... Oui, on est en retrait, mais on apprécie ce qu'ils font là-dessus. Hein. Là, il n'y a pas débat, Betsa Béas, on se connaît bien, et c'est peut-être avec elle qu'on fonctionne le mieux, d'ailleurs, dans l'équipe de la ville de Tours.
Alors, juste une question sur l'idée de mettre des arbres en ville, donc la nature en ville, peut-être qu'il y a des essences à privilégier, parce que sinon, ça va crever très vite en haut de la rue nationale.
Alors, si c'était ça la question, pardon, je n'avais pas bien compris. Oui, bien sûr, d'ailleurs, il y a deux choses. Il y a les arbres, alors les recommandations. Qu'elles soient arbres, arbustes ou même végétaux de base, on a un système qui n'est pas le nôtre, hein, qui est au niveau national, qui n'est pas assez connu, qui s'appelle le label végétal local. Donc nous, on fait parallèlement des plantations de haies avec tous les agriculteurs, une grande partie des agriculteurs de Touraine, hein, on se retrouve en campagne là, pour reconstituer les fameux bocages d'une époque, qui ont disparu un peu vite dans les années 60, au moment de l'après-guerre, etc. Bon, il fallait que tout le monde mange, paraît-il. Mais globalement, c'est une action sur... les arbres qui nous a permis d'identifier les bons types d'essences qu'il fallait retenir à travers le label végétal local. Et on a donc des filières qui ont été instituées, qu'on recommande à des acteurs comme la ville de Tours ou d'autres. Après, sur la partie, choix de ce qui a pu être fait, par exemple sur MAM, je ne sais pas si vous l'aviez en tête, ce projet qui est juste devant l'incubateur MAM, où sont regroupées pas mal de petites entreprises qui sont en train de se lancer dans la vie. Ils ont constitué ce qu'on appelle dans la méthode Miyawaki, une méthode japonaise, une forêt dense, une petite forêt, hein, c'est un bois dense d'arbres, sur lequel on n'adhère pas totalement, parce qu'en fait, il ne faut pas penser que l'arbre réglera tout. On considère, nous, qu'il y a autant d'intérêt en termes de biodiversité à planter des arbres que des arbustes, que de l'eau, que même de laisser des prairies vivre sans replanter les arbres. Et je vais même vous sidérer, on est en train de faire déplanter actuellement un paquet de zones où il y a des peupliers. Quand il y a des peupliers, c'est génial, ça absorbe la flotte. Non, il faut garder la flotte à tel endroit, et donc on est en train de remettre des essences qui ne vont pas absorber toute la flotte qui existe dans les sols humides, parce qu'elle est aussi nécessaire pour la captation GES, mais aussi pour la faune et la flore qui vit, même si on ne la voit pas trop, dans ces prairies humides, je vais les appeler comme ça. Donc, il y a des évidences. Peut-être c'est un manque d'éducation, j'en veux à personne. Hein. Moi, je l'ai découvert aussi avec la CEPANTE, qui fait qu'on a des actes, on a l'impression qu'ils sont hyper positifs en partant à fond sur les arbres, alors qu'il y a beaucoup d'autres solutions pour aller dans l'avant sur la protection de la biodiversité et la captation de carbone, qui sont d'ailleurs convergentes.
D'ailleurs, est-ce que vous travaillez, par exemple, avec l'INRAE sur ces projets-là autour des arbres?
Oui, on a des actions. Alors, les personnes dont je parlais tout à l'heure, là, dans les salariés... Il y a deux salariés, un très très bon dans l'habitat et un autre qui est très très bon dans la botanique, tout ce qui est vivant, qui sont en relation régulière. Je n'ai pas les noms des personnes de l'INRAE, mais c'est eux qui s'en occupent très très bien. Ils sont même très bien connus.
Donc ça veut dire que vous travaillez peut-être en partenariat avec certains chercheurs? Comment ça se passe?
Oui, c'est ça, exactement. Il n'y a pas une convention, c'est peut-être ce qu'il faudrait qu'on imagine de faire. Aujourd'hui, c'est plutôt par une relation dans l'histoire, dans la durée, qui fait qu'elle s'est instituée. Alors après, le risque... ça peut peut-être le fond de votre remarque que j'évoquais sur les bénévoles tout à l'heure, c'est que si les gens partent en retraite à l'INRAE, bah, il peut y avoir une coupure de relations et donc d'action. Et c'est pour ça que la convention serait sûrement à travailler. Votre idée est bonne là-dessus, faut que j'y pense.
En tout cas, je vois Croze sourire en entendant parler d'INRAE. Peut-être que tu veux réagir.
C'est juste que c'est un métier qui m'intéresse.
Ah oui. Ah bah effectivement, alors il y a des jeunes comme toi qui sont venus chez nous uniquement pour faire un stage et pour monter en selle après par rapport à une orientation professionnelle. C'est pas pour rester à la sépente, si même pas pour uniquement découvrir par curiosité, ça fait partie un peu de leur cursus et on les aide à monter en puissance. Le tout c'est de l'organiser en amont, c'est tout ce que je disais tout à l'heure, parce qu'on a une demande phénoménale et tous ces jeunes, on les voudrait les accueillir. Mais... Alors après on peut essayer de vous aider à trouver d'autres points de chute que ceux de la Sépente, par le réseau qu'on a, au moins dans les associations qui ont déjà des salariés. Parce que pour qu'un jeune soit bien en confiance, moi j'ai fait beaucoup de tutorat dans mon entreprise, rien à voir, il faut qu'il soit vraiment bien tutoré. Sinon, on vous laisse à l'abandon et ce n'est pas sérieux. Donc on pourra regarder hein, s'il y a besoin de retomber à la Sépente en amont d'une date ou avec les associations dont je parlais tout à l'heure, dont je connais très bien les présidents ou les conseils d'administration.
Alors moi, je reviens juste une dernière question pour moi sur le. Vous avez dit tout à l'heure en mode militant, on passe en mode militant. Alors est-ce qu'il y a quand même des actions que la Sépente ne fera jamais en termes de militantisme ?
Ne fera jamais. Alors là, c'est la question qui. On s'interdirait de se battre contre telle chose.
Ou alors, je dis peut-être que je vais reformuler ma question parce que on a bien compris que la Sépente est peut-être. Discrète mais très efficace, c'est peut-être ça, est-ce que c'est juste ? Et du coup, de dire, est-ce qu'il y a des actions, disons, ce qu'on appelle coup de poing, dont les médias sont souvent friands, que la Sépente ne ferait pas, en fait ? C'est un mode d'action que ferait jamais la Sépente.
Ah oui, 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 ah oui, ah oui, très bien, les gros sujets, moi je regarde tout ça dans les débats divers et variés. Oui, oui, alors on ne les désavoue pas, enfin, je ne sais pas si ça va jusqu'au tableau de peinture qui ont été un peu bafoués, tout ça. Par contre, on fait des choses pas très loin. Je vais donner un exemple concret aussi qui a fait du bruit, c'est les bassines. J'aurais dû en parler depuis un moment, on était très appliqués. On a créé l'année dernière, avec trois autres associations, dont Haute-Touraine, le convoi de l'eau, qui a circulé à partir de Sainte-Soline, dans le sud de la Touraine, jusqu'à Paris. Enfin, on est passé par l'agence de l'eau Orléans jusqu'à Paris. Donc, on a une capacité à défiler, à être présent, à occuper le terrain. Je pense d'ailleurs à un sujet qu'on a fait récemment aussi avec le Leclerc de Joux-les-Tours. On avait été occupé le terrain pour éviter qu'ils implantent un Leclerc, là où il y a la biodiversité. Mais on ne va pas casser, on ne va pas faire du bruit pour que ça attire l'œil et attire l'oreille. Ce qui fait qu'après, on se désolidarise quand au bassin, il y a des gens qui viennent un peu pour faire de la casse quelque part, ou en tout cas beaucoup trop de bruit. Parfois, c'est pas que de la casse. Hein. Parfois, c'est aussi... je peux comprendre, ils ont raison, parce qu'ils disent on n'est jamais écouté, c'est pénible, à un moment donné, il faut bien passer par là. Maintenant, c'est pas notre façon de faire. Oui, effectivement, c'est d'une forme de militantisme qu'on ne veut pas avoir. La nôtre, c'est discuter, enfin, être en amont, être au courant, comprendre ce qui se passe, décider chez nous de la position qu'on va prendre, négocier avec les collectivités locales ou les industriels, j'en ai parlé tout à l'heure, pour qu'ils aillent dans le bon sens de l'histoire. Et puis à partir de là, si on n'aboutit pas, on peut aller jusqu'au procès. On en fait beaucoup. En gros, on a 4-5 procès par an qui nous coûtent du pognon. Hein. C'est clair. Hein. Un procès, à chaque fois, c'est 3-4 000 euros qu'il faut mettre sur la table. Et il ne tombe pas du ciel. Hein. On n'a pas de subvention. Hein. Donc c'est en gros l'argent qu'on a réussi un peu récupéré avec nos projets financés. Et puis par moment, de temps en temps, on a un acteur qui nous fait signe en disant « je vais vous aider sur ce coup-là ». Mais globalement, ce sont nos types de formes de militantisme. On n'est pas dans la rupture, dans la violence, ou en tout cas le fait de faire du bruit. Voilà, on ne fait pas de bruit, qu'il soit positif ou négatif.
Peut-être que vous avez aussi des choses à recommander à nos auditeurs, des choses à aller lire, à aller voir, à aller écouter.
À aller jouer. On était en train de parler de ça avec une personne que je suis en train de recruter sur l'éducation. Le jeu est très important pour apprendre les choses. Par exemple, dans la biodiversité, savoir les différentes catégories d'espèces, il y a un jeu de cette famille là-dessus. Il y a un autre type de jeu, là, c'est Viva Montana, qui permet, alors c'est des déchets qui sont en montagne, qui recouvrent un peu toute la nature, et le but, c'est très rapidement avant le printemps, d'aller récupérer les déchets pour libérer l'espace et refaire vivre la faune ou la flore. Après, dans les livres, c'est marrant, c'est ma fille qui me les a achetés à chaque fois, il y a Pourquoi pas le vélo? Parce que je n'ai pas trop parlé de mobilité douce, mais on est aussi très impliqué dans la mobilité douce. On a formé Val Touraine Habitat avec ses 285 collaborateurs, aller de plus en plus, transport en commun, les vélos, le covoiturage, etc. Donc pourquoi pas le vélo? Il y a 160 raisons de prendre un vélo. J'aurais pu le prendre ce matin, mais bon, je préfère le transport en commun. Il y a aussi le zéro déchet. C'est un livre qui est très bien fait parce qu'il ne parle pas que des déchets. Il parle aussi des financeurs, enfin des banques. Et ça, c'est un point clé, je veux dire, au passage, de militantisme. L'argent, placer son argent est aussi important que tout le reste. Si on a un peu d'argent, un peu d'épargne, le mettre plutôt dans des entreprises, dans des projets financés, alors avec des banques connues comme Crédit Coopératif et autres, qui vont financer des projets de territoire pour faire plus de pistes de cyclables, pour mettre en place des panneaux photovoltaïques sur les toits, etc., etc. Donc, regardons aussi des livres qui recommandent des possibilités de financement de projets dans lesquels c'est peut-être 50 euros, je ne suis pas en train de parler de milliers d'euros, sur lesquels on dira bah, j'ai donné un peu de sens à l'argent plutôt qu'il aille financer des pipelines en Afrique, etc., dont on a beaucoup trop parlé. Voilà, c'est des exemples de bouquins qui peuvent servir à orienter un peu son comportement, pour ceux qu'on a envie.
On va te laisser le mot de la fin, Rose. Est-ce que tu as une dernière question pour l'invité, ou alors est-ce que pour nos auditeurs, tu voudrais leur recommander quelque chose que tu as aimé lire ou regarder, une série sur le sujet de l'environnement, puisque c'est un sujet qui t'intéresse. Est-ce qu'il y a des ressources que tu pourrais recommander à nos auditeurs?
J'ai une idée de livre, roman graphique qui s'appelle La jeune fille de la mer. Ça parle un petit peu de la faune, de la flore asiatique, avec un petit peu mélange de science-fiction. C'est sympa. Donc, le livre, c'est La jeune fille et la mer de Catherine Meurice aux éditions d'Argo.
J'ai oublié de dire dans les médias qu'on a aussi une animation mensuelle qui se fait avec le partenariat CGR à Tours Centre, où à chaque fois, on choisit un film sur l'environnement et c'est un ciné-débat organisé par une de nos bénévoles qui a une pêche d'enfer, d'ailleurs.
Voilà. Et ben, merci beaucoup, Rose, pour cette émission. Merci à toi d'être venue nous parler d'environnement et de biodiversité avec ton invité Bruno Debron, président de la CEPAN. Nos auditeurs ont de la matière à penser, à aller voir, à aller lire et à aller écouter grâce à nos invités. Merci. Et puis, il me reste à vous souhaiter à tous et à toutes la meilleure journée possible à l'écoute de nos programmes, évidemment. Au revoir, Rose.
Au revoir.
Merci également.
Il y a des colorants pas marrants, du mazout dans les océans, des trucs bizarres dans nos assiettes. Pauvre beefsteak, la petite Juliette et son Roméo tournent à poil dans les films porno. Y a pas plus d'amour sur pellicule que de fleurs sous le bitume. T'as beau pas être beau, oh, 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 mon de cinglé, hey, 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 j't'ai dans la peau, oh, 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 j't'aime, t'aime, t'aime. Y'en a qui dégainent leurs pétards pour une poignée de dollars. Y'a des bombards et des bombaches qui jouent à cache-cache. Y'a le KGB à la CIA, le gros Sidi Amin Dada, wow. Du sang à la une des gazettes, pauvre planète, oh. T'as beau pas être beau, oh, 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 oh. Mon de cinglé, hey, hey, hey. J't'ai dans la peau, oh, 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 oh. J't'aime, t'aime, t'aime. Faut dire qu'il y a quand même des mecs ont du soleil dans la tête, sur ma planète. Des mecs qui pensent pas que c'est chacun pour soi, qui se tendent les bras sur ma terre à moi. T'as beau pas être